VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydoudia et Morgan Guerrier à Washington. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 20 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Le crash de l'avion d'Égyptair, des sièges et des valises ont été repêchés au large des côtes égyptiennes et parmi les 66 personnes à bord figurait un Tchadien.
Il était à Saint-Cyr, il rentrait, il avait la croix assistée et au sacrifice de sa maman à Paul.
Boko Haram a encore frappé dans le sud-est du Niger. Au moins 6 civils ont été tués dans le village de Yebi.
Pour parler de paix sur le Burundi, l'opposition en exil refuse de se rendre en Tanzanie pour les premières consultations demain.
Au moins 64 morts dans des inondations au Sri Lanka après de nouvelles pluies.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Et d'abord, le journal...
Du nouveau sur l'Airbus A320 qui s'est abîmé en Méditerranée. Des sièges d'avions et des valises ont été repêchés aujourd'hui au large des côtes égyptiennes au lendemain du crash de l'avion d'Égyptair, Paris-Le Caire, dans des circonstances toujours mystérieuses. Salwa Jafari.
Il y a quelques instants, nous avons été informés par les autorités égyptiennes de la découverte d'une partie d'un corps, de deux sièges et de bagages dans la zone où les recherches ont lieu, au sud de l'endroit où le signal de l'avion a été perdu.
Le ministre de la Défense grec donne plus de détails. L'avion a été repéré plus exactement à 290 km au nord d'Alexandrie par des avions et des navires déployés par l'armée égyptienne. Des satellites ont par ailleurs détecté une possible nappe de pétrole à environ 40 km de l'endroit où l'avion a disparu, selon l'Agence spatiale européenne. Ces premiers éléments devraient aider les autorités à comprendre comment le vol a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait sans problème apparent et dans un ciel clair, la Méditerranée orientale. Les autorités égyptiennes n'écartent pas l'hypothèse du terrorisme. L'absence totale de messages de détresse émis par l'équipage avant la chute brutale de l'appareil conforte cette possibilité.
Boko Haram a encore frappé dans le sud-est du Niger. Au moins 6 civils ont été tués et 7 autres blessés hier soir dans le village de Yebi, près de la ville de Bosso. D'après l'armée nigérienne, 4 victimes ont été brûlées vives. Les djihadistes ont incendié quelques 10 habitations, le marché local et plusieurs têtes de bétail. Ils ont également emporté 2 voitures.
Au Nigeria, des membres d'associations et des parents émettent des doutes sur l'identité d'une jeune femme présentée comme étant la seconde lycéenne de Chibok, libérée dans le nord-est du pays. Les précisions de Michel Joseph.
Les autorités militaires nigérianes ont fait savoir ce vendredi que la jeune femme du nom de Sera Luka a été secourue jeudi dans la zone de Damboa, dans l'état de Borno, et qu'elle faisait partie des plus de 200 jeunes filles enlevées par les islamistes de Boko Haram dans un lycée de Chibok. L'armée a publié une photo de la jeune femme portant un voile bleu courant dans la région et similaire à celui porté par les filles de Chibok sur les images publiées par leurs ravisseurs. Toutefois, selon Yakubu Nkeki, président de l'association des parents des lycéennes prises en otage à Chibok, deux filles du nom de Luka ont bien été enlevées, mais Sera Luka n'est pas l'une d'elles. Mardi, la première lycéenne secourue, Amina Ali, qui est âgée de 19 ans, a été retrouvée avec son bébé de 4 mois dans la forêt de Sambisa par des éléments d'un groupe d'autodéfense. Ali et sa mère ont été reçues par le président Muhammadu Buhari jeudi à Abuja.
En RDC, l'opposant Moïse Katumbi est toujours soigné dans une clinique à Lubumbashi. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt après son inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est dans ce contexte que le médiateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, est arrivé à Kinshasa.
Burkina Faso, le gouvernement affirme avoir pris une série de mesures d'urgence pour faire face à la multiplication des accidents routiers. Elle porte sur la limitation de vitesse pour tous les cars de transport en commun et sur l'interdiction formelle du transport mixte dans un pays où passagers et animaux voyagent souvent ensemble. Il faut dire que près de 40 personnes sont mortes sur les routes en moins d'une semaine.
Grève des magistrats au Gabon. Le syndicat national des magistrats proteste contre les nominations récentes du Conseil de la magistrature, présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le Sinamag dénonce une instrumentalisation de l'exécutif sur le judiciaire. Les magistrats affirment notamment que des magistrats de grade inférieur ont été promis à des postes auxquels ils ne devaient pas avoir accès, tandis que des hauts cadres ont à l'inverse été rétrogradés.
25 ans de réclusion criminelle requis en France à l'encontre de Domenico Cocco. L'Italien de 63 ans est soupçonné d'avoir organisé le meurtre de deux dignitaires congolais dans les Alpes en 2000. Philemon Nalu Winja, chef Maïmaï de la province du Kivu en République démocratique du Congo, et Aimé Noël Atembina, conseiller militaire du gouvernement congolais à l'époque du président Mobutu.
Une mosquée attaquée en Tanzanie. Trois personnes ont été tuées par des hommes armés de machettes dans la ville de Mwanza, sur la rive du lac Victoria. C'est ce qu'indique une source policière citée par l'AFP.
Angola, un militant des droits de l'homme condamné à 6 ans de prison a été acquitté en appel. Marcos Mavungo était poursuivi pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement en 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, des partisans du dignitaire chiite Moqtada Sadr ont encore pénétré aujourd'hui dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad, se dirigeant vers les bureaux du Premier ministre Haider al-Abadi, selon un photographe de l'AFP. Les milliers de manifestants qui réclament des réformes se sont d'abord heurtés à une forte résistance des forces de sécurité, mais ont finalement réussi à pénétrer dans cette zone qui abrite des ambassades et des bâtiments officiels.
Le Pentagone a écarté la proposition de frappe commune en Syrie faite aujourd'hui par Moscou. Son porte-parole Jeff Davis a souligné que les États-Unis ne collaboraient pas avec les Russes sur les opérations militaires en Syrie. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait proposé à Washington et à sa coalition internationale d'effectuer des frappes aériennes ensemble à partir du 25 mai contre des groupes terroristes dont le front al-Nusra actif en Syrie.
L'OTAN a décidé de prolonger au-delà de la fin 2016 sa mission soutien résolu de formation et de conseil aux forces armées afghanes qui affrontent de graves défis sécuritaires. Cette décision a été annoncée aujourd'hui par son secrétaire général Jens Stoltenberg à l'issue d'une réunion des chefs de la diplomatie des 28 pays membres de l'Alliance. L'OTAN avait mis fin le 31 décembre 2014 à sa mission de combat en Afghanistan, mais face à un regain de l'insurrection islamiste armée et des difficultés rencontrées par les forces afghanes, les troupes occidentales se retrouvent de plus en plus impliquées dans les combats.
Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yalon, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le gouvernement de Benjamin Netanyahou et le monde politique en invoquant son manque de confiance dans le Premier ministre. Les précisions de John Linden.
J'ai dit au Premier ministre ce matin qu'étant donné son comportement au cours des derniers événements et mon manque de confiance en lui, je démissionnais du gouvernement et de la Knesset et je prenais mes distances avec la vie politique, a annoncé M. Yalon sur son compte Twitter. En effet, la politique israélienne est en pleine turbulence depuis que M. Netanyahou a offert mercredi le portefeuille de la défense à l'opposant ultranationaliste Avigdor Lieberman. Un vétéran en politique connu pour ses diatribes anti-arabes et son populisme belliqueux. Sa nomination devrait permettre au premier ministre israélien d'élargir sa majorité parlementaire qui ne tient actuellement qu'à une voix. La direction palestinienne a réagi à cette annonce, dénonçant le retour de M. Lieberman comme une nouvelle preuve que Netanyahou préfère promouvoir l'extrémisme et la confirmation que les Palestiniens n'ont pas de partenaire pour la paix côté israélien.
Au moins 64 morts dans des inondations au Sri Lanka après de nouvelles pluies. Des habitations de Colombo fuient depuis hier sur des canaux pneumatiques et des radeaux de fortune, tandis que quelques 500 000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement. Nathalie Barge.
Le Sri Lanka est touché depuis près d'une semaine par les plus fortes pluies enregistrées depuis 25 ans. Elles ont déclenché d'énormes glissements de terrain, ensevelissant les victimes parfois sous 15 mètres de boue. Plus d'une soixantaine de personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe et des dizaines d'autres sont portées disparues dans deux villages, à une centaine de kilomètres de la capitale Colombo. L'Inde a annoncé l'envoi de deux navires et d'un avion avec de l'aide d'urgence. Selon le centre de gestion des catastrophes, 21 des 25 districts du pays ont été touchés, tandis que 300 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d'hébergement d'urgence et 200 000 chez des proches. La zone la plus touchée de la capitale est la banlieue nord-est, le long de la rivière Kelani, qui a commencé à sortir de son lit jeudi soir.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La fraude dans l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire fait perdre annuellement plus de 22 milliards de francs CFA à l'État, rapporte l'APA. Selon le gouvernement, des milliers de grumes sont coupées frauduleusement dans l'une des annexes de la société Tenri à Danané. Le ministre des Eaux et Forêts, Louis-André Dacour-Itablé, a ordonné la fermeture de cette société pour les besoins de l'enquête. Signature d'un nouveau partenariat entre le Sénégal et le Kazakhstan, visant à renforcer la coopération sportive, rapporte Financial Afrique. Le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, et son homologue Moukamedjouli Aristanbek ont conclu cet accord hier à Astana, la capitale kazakh. La section nationale des mines et industries du Mali observera une grève les 30, 31 mai et 1er juin. Selon la SECNAMI, les employeurs manquent de volonté pour parvenir à un accord au plan social. Elle dénonce notamment les mauvaises conditions de travail dans deux cimenteries, le non-paiement des primes et la rupture du dialogue social avec le ministère des Mines.
Plein feu sur les stades, les sports avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Morgane.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré que la Russie offrirait toute l'assistance dont ont besoin les enquêteurs de l'Agence mondiale antidopage.
Une promesse qui intervient suite aux accusations lancées par l'ancien patron du laboratoire antidopage russe, Grigory Rodchenkov, sur un système de dopage systématique pour les athlètes russes, dont 15 médaillés olympiques, pendant les Jeux de Sochi, un scandale qui a abouti à la suspension de la Fédération russe d'athlétisme. Le président russe affirme avoir ordonné à son ministre des Sports et à toutes les agences russes de fournir à l'AMA toute l'assistance nécessaire. La Russie a pour sa part annoncé jeudi avoir ouvert une enquête concernant les soupçons de dopage de ses athlètes aux Jeux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et Sochi en 2014.
La commission d'éthique de la FIFA a requis une suspension de 2 ans à l'encontre de Wolfgang Niersbach, ancien président de la Fédération allemande de football.
Une sanction liée, Morgan, à son implication dans le scandale de corruption présumé sur l'attribution du Mondial 2006, a indiqué vendredi la FIFA. L'ancien président de la Fédération allemande de football devra, en outre, s'acquitter d'une amende de 27 000 euros. Niersbach, qui siège toujours au conseil de la FIFA ainsi qu'au comité exécutif de l'UEFA, s'est dit prêt à contester une sanction qu'il estime disproportionnée.
Suite des play-offs de la NBA, le championnat nord-américain de basketball professionnel, Cleveland a enchaîné une deuxième victoire de suite jeudi en finale de la conférence Est face à Toronto, surclassé 108 à 89.
Et oui, Morgan, le club canadien a été incapable de maîtriser LeBron James, une nouvelle fois étincelant. À sa sortie du terrain, Kim James a d'ailleurs croisé Karim Abdul-Jabbar, la légende des Lakers dont il se rapproche peu à peu en termes de palmarès, de statistiques et d'aura. Avec ses 23 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, le double champion NBA et quadruple MVP s'est offert son 15e triple-double de sa carrière en playoffs et a dépassé Shaquille O'Neal pour devenir le 4e meilleur marqueur de l'histoire en phase finale avec 5255 points. Le match numéro 3 aura lieu samedi à Toronto. Le vainqueur de ce duel, décidé au meilleur de sept matchs, sera opposé soit au champion NBA en titre, Golden State, soit à Oklahoma City, les deux clubs qui sont dos à dos, une victoire partout en finale de la Conférence Ouest.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Idrissa Seydoulia en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale.
L'Égypte. Parmi les 66 personnes à bord de l'avion d'Égyptair qui s'est abîmé hier en Méditerranée, figurait un Tchadien, Mamat Sechi, élève officier à Saint-Cyr en France. Il était en route pour N'Djamena où Timothée Donogmaï a joint son oncle, le journaliste Abba Ali Kaya.
J'ai été informé par un canal d'un ami pour me dire que bon, le Tchadien qui était mort dans l'avion se trouve être un Mamat Sechi. Et donc, il était à Saint-Cyr et il rentrait à N'Djamena. Je n'avais pas sur le coup réalisé cela. Et c'est quand je suis revenu à la maison que les grands frères m'ont appelé pour me dire en fait, il s'agit de ton neveu Mamat Sechi. Et donc, sitôt on était à la place mortière, comme de tradition, pour recueillir les condoléances. Et puis, bon, on a passé toute la soirée et on a prié pour lui, pour que son âme repose en paix.
Mamat Sechi rentrait pour un deuil.
En effet, Mamat avait perdu d'abord bien avant son père, il y a refait de père, et il rentrait pour aller assister au sacrifice de sa maman à Bol. Le sacrifice était prévu hier. Bon, Dieu en a décidé autrement. Donc, il voulait venir à N'Djamena. Il a apparemment pris le chemin le plus court pour lui en faisant Paris et le cœur de N'Djamena. Et N'Djamena, il allait partir assister au sacrifice du décès de sa maman. Mais le destin a décidé autrement. Voilà. Et c'est triste pour la famille et pour tous ceux qui le connaissent.
Quel souvenir laisse Mamat Sechi pour sa famille et ses amis?
Écoutez, c'est un enfant d'abord orphelin de père et de mère, et lui-même vient de paraître. Mamat Sechi, c'est un gars très brillant. Il a fait ses études primaires et secondaires à Bol. Après, il était parti à Ndaoundéré, où il a obtenu une licence en comptabilité. Et de retour, il avait fait le concours inter-armes de Saint-Cyr. Il était admis, il est parti, il a entamé sa troisième année. Bon, c'est nous qui le connaissons, parce qu'il vit chez mon grand frère. Donc c'est quelqu'un qui est très correct, très assidu, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ses études. Voilà. Surtout pour tout dire, c'est un gars très bon. Pour nous, pour la famille, c'est un gars très correct, avec un comportement exemplaire. Et vous savez, chez le moment, on dit que le bon Dieu ne laissera jamais les bonnes personnes sur la terre pour se salir. Voilà. Là, il est parti nous laisser. Il a rejoint son père et sa maman.
Le journaliste tchadien Abba Ali Kaya, oncle de Mamat Sechi, une des victimes du crash de l'avion d'Air Égypte.
Le mystère reste donc entier au lendemain du crash de l'avion d'Égypte Air, Paris-Le Caire, qui s'est abîmé en mer. À l'heure actuelle, il n'y a aucune indication sur les causes de ce crash. Accident technique, faute humaine, acte terroriste. Toutes les hypothèses sont examinées, mais au micro de Jacques Aristide, le général de brigade aérienne à la retraite, Jean-Vincent Brissé, qui est également directeur de recherche à l'IRIS, estime que les circonstances du drame devront être élucidées assez rapidement. Jean-Vincent Brissé.
Tant qu'on n'aura pas de précision et qu'on aura, je pense, assez rapidement, on ne peut pas savoir si c'est un accident technique, une faute humaine qui paraît le moins probable, hein, ou un attentat ou quelque chose d'imprévu qui peut être quelque chose qui n'est pas lié à l'avion, simplement quelque chose de spontané, par exemple dans une soute, une explosion d'une batterie ou quelque chose comme ça.
Que signifie le fait que la disparition de l'avion n'a été revendiquée par aucun groupe actif au Moyen-Orient, du moins jusqu'à présent ?
Alors ça aussi, pour le moment, l'accident est quand même extrêmement récent, donc les revendications, quelquefois, quand il y en a, et qu'il y en aura une, ça prend quelquefois 24 heures, 48 heures, 72 heures. Hein, on l'a vu dans différents cas. Donc le fait qu'il n'y ait pas de revendication ne veut rien dire. Et puis on peut avoir un attentat qui ne soit pas revendiqué, c'est déjà arrivé aussi.
Toutefois, le ministre égyptien de l'aviation civile a estimé hier que la probabilité d'une attaque terroriste était plus élevée que celle d'une défaillance technique. Conclusion hâtive d'après vous, ou y a-t-il quand même certains éléments qui ont pu amener le ministre à faire cette déclaration?
Alors, je pense que le ministre n'avait pas d'éléments particuliers strictement liés à l'avion. Il avait sans doute des éléments que tout le monde a un petit peu en ce moment. On est dans une période où les risques d'attentats sont beaucoup plus élevés qu'ils ont pu l'être il y a quelques années. Donc, effectivement, on pense tout de suite à l'attentat quand il y a une disparition brutale. Hein, et techniquement, c'est aussi quelque chose qui est peut-être un peu plus probable qu'un problème technique survolant au cours d'une phase de vol à haute altitude.
Et d'après vous, va-t-on pouvoir rapidement élucider le mystère ?
Alors, je pense qu'on saura très rapidement s'il y a eu quelque chose de brutal dans un premier temps. On pourra assez rapidement, je pense, retrouver les enregistreurs de vol, ce qu'on appelle les boîtes noires, hein, et savoir à peu près ce qui s'est passé. Et ensuite, là, il y a une phase beaucoup plus longue. Il faudra essayer de trouver s'il y a eu une explosion, essayer de trouver des morceaux de métal, des morceaux de l'avion qui ont été directement concernés par l'explosion, de manière à pouvoir faire des analyses chimiques qui sont difficiles après un séjour dans l'eau de mer, et faire ces analyses chimiques. À partir de ces analyses chimiques, on peut faire du travail de renseignement pour remonter un petit peu la filière. Si on prend l'hypothèse de l'attentat, il y a un certain nombre de détonateurs ou une manière d'actionner un explosif qui peuvent être actionnés en fonction d'une baisse de régime réacteur ou d'une baisse de pression. En cours de descente, la bombe est prévue pour fonctionner après une descente en dessous d'une certaine altitude. Donc le fait d'avoir un avion qui se met normalement en descente peut provoquer simplement un détonateur qui existe déjà.
L'expert Jean-Vincent Brisset de l'Institut des relations internationales et stratégiques, joint dans le sud de la France.
L'opposition burundaise en exil est regroupée au sein du Conseil national, Knared Jiriteka, a refusé de se rendre demain à Arusha en Tanzanie pour les premières consultations séparées devant relancer le dialogue entre Burundais. Motif, l'opposition entend participer à la session en tant qu'une seule entité et refuse des invitations individualisées en dehors du cadre Knaren Jiriteka. Pour analyse, Eric Maniarakis a adjoint le chercheur sur le Burundi auprès de l'International Crisis Group, Thierry Vircoulon.
C'est un mauvais départ. Il faut savoir que cette réunion, on l'attend depuis le 28 décembre 2015, lorsqu'il y a eu la réunion de Kampala, qui n'avait rien donné, qui n'avait pas réussi à déclencher une véritable discussion entre le gouvernement et les oppositions. Donc cette fois-ci, après 5 mois d'attente, le médiateur ou le facilitateur est dans une position assez difficile.
Maintenant, il va se retrouver avec, disons, de faux acteurs au niveau de l'opposition. Est-ce que le médiateur qui va se retrouver, justement, comme vous le dites, dans une position difficile, devrait-il tenir compte des exigences du gouvernement de Bujumbura?
Je crois que maintenant, il n'y a plus tellement de choix, puisque ce modo, soit il accepte les conditions de réunion du gouvernement et dans ce cas le CNARED ne vient pas, soit il accepte les conditions du CNARED et dans ce cas le gouvernement ne vient pas. Donc je crois que la seule façon de sortir de cette impasse, c'est en fait d'organiser des discussions séparées, que le médiateur discute avec chaque partie séparément et leur transmet leurs arguments. Pour le moment, c'est la seule porte de sortie de l'impasse actuelle.
Pourtant, le médiateur a rencontré la coalition CNARED la semaine dernière.
Bon, il a pris sa décision. Ce n'est pas une bonne situation à la fois pour le médiateur, aussi pour l'opposition, parce que, en fait, on voit que ces divisions s'accentuent. Il y aura deux partis d'opposition qui viendraient quand même à Arusha. Donc ça montre que l'opposition n'est pas complètement cohésive.
Il y a donc un blocage et au regard des conséquences profondes de cette crise, qui perd ou qui gagne?
Tout le monde perd. C'est un jeu perdant-perdant. Je crois que c'est un jeu perdant pour l'opposition de ne pas aller à Arusha, même si elle n'est pas le sigle Knared, parce que c'est quand même une opportunité de dire ce qu'il pense au gouvernement, ce qu'il manque. C'est aussi un élément qui n'est pas favorable à l'opposition, parce que ça montre ses divisions, montre que c'est une opposition qui reste quand même très divisée, qui n'est pas capable de monter un vrai front commun face au gouvernement. Et puis du côté du gouvernement, je crois que la plupart des gens diront que sa politique actuelle n'est pas tenable dans la durée, que la situation économique va devenir de plus en plus dure pour les Burundais et que ça va rendre le pouvoir de plus en plus impopulaire.
Thierry Vircoulon, joint à Paris. Notons ainsi que l'International Crisis Group vient de sortir un rapport sur le Burundi, anatomie du troisième mandat.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Pour revenir au Tchad, réélu à l'issue de la présidentielle du 10 avril 2016, qui l'opposait à 13 autres candidats, le président sortant, Idriss Déby Itno, a déjà rendu public le premier acte de son nouveau quinquennat, celui de commettre un audit pour les services étatiques des 5 dernières années de son mandat en cours. Une déclaration qui suscite des débats à N'Djamena. Correspondance d'André Kotmajingar.
Accédé au pouvoir en 1990, Idriss Déby Itno a été réélu pour la 5e fois consécutive. Proclamé gagnant dès le premier tour avec 59,92% par le Conseil constitutionnel, le président sortant continue à savourer sa victoire, pourtant contestée par 6 autres candidats de l'opposition et une partie de la société civile. Alors qu'il n'a pas encore été investi, il déroule déjà le premier acte de son 5e mandat.
Pour démarrer le nouveau quinquennat, le premier acte que nous ferons, c'est de faire un audit de la gestion du Tchad pendant les 5 années passées. Secteur par secteur, ministère par ministère, société par société, direction par direction.
Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, ne croit pas à cette déclaration.
Qui va faire cet audit du Tchad de ces 5 années de régime de Déby? C'est qui? C'est peut-être dépenser de l'argent pour rien. C'est un effet d'annonce. Restons là. Et puis c'est tout.
Il déclare par ailleurs que même s'il y a audit, ces résultats ne seront pas appliqués.
Certaines formes d'audit ont identifié son frère comme ayant détourné 136 milliards. Et son frère est là. Les grandes entreprises, même au Tchad, là, sont détenues par qui? Par ses frères. Et tous ces audits là vont donner un résultat qui n'aboutira à rien du tout.
Le porte-parole de la coalition de la société civile pour la bonne gouvernance, Soumaïn Adoum, se félicite de cette déclaration.
Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il le fasse. Et surtout qu'il le fasse par une institution qui soit indépendante, autonome de l'État. Là où on l'attend, c'est quelle suite va être donnée? Y aurait-il des mesures qui seraient prises pour des personnes indélicates?
Pour le constitutionnaliste et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, professeur Ahmad Mohamed Hassan, il est trop tôt pour Idriss Déby Itno de faire une telle déclaration.
Si on se réfère exactement à l'esprit de la constitution, nous avons 3 Idriss Déby. On a un Idriss Déby candidat à sa propre succession, Idriss Déby nouveau président réélu, mais il n'entre légalement en fonction, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, qu'après l'expiration du précédent mandat. Maintenant, à cette période-là, ce n'est ni le candidat Idriss Déby, ni le nouveau président Idriss Déby investi, mais il s'agit encore de l'ancien président de la République qui n'a pas encore terminé de jouir de son mandat qui se termine le 7 août 2016 à minuit. Maintenant, quand il dévoile cela, je crois qu'il aurait dû attendre un peu.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Joselle Morissin, Nick Ivanov à la console, présentation Morgane Yayek et Chérubin Dorsil.
Idrissa Seduga à la place de Chérubin. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.